Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Nous y étions déjà la semaine dernière et on y revient. Jean chapitre 14. Nous allons considérer les versets 18 à 24, mais on va lire à partir du verset 15. Jean chapitre 14. Et nous commençons la lecture à partir du verset 15. Et voici la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et c'est la parole de Dieu. La dernière fois, nous étions donc un peu plus haut dans ce chapitre 14, et nous avons vu le Seigneur Jésus faire cette merveilleuse promesse, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le Seigneur Jésus est ici donc avec ses disciples, la dernière soirée avant sa crucifixion, et il donne de merveilleuses promesses à ses disciples pour les encourager dans leur foi, pour dire ce qu'il allait faire pour eux après son départ. Le puritain Thomas Watson écrit que toutes les promesses du Seigneur Jésus sont comme l'eau de la vie qui renouvelle les esprits découragés. Et il continue, comme la manne a été placée dans l'arche, rappelez-vous, la manne a été placée dans l'arche de l'Alliance, de même les promesses sont placées dans l'arche de l'Écriture. Et quand on étudie, qu'on apprend à connaître les promesses du Seigneur Jésus-Christ et que notre cœur se nourrit de cette manne par la foi, nous sommes renouvelés, fortifiés, réconfortés. Et il n'est donc pas surprenant que si les promesses de Dieu, les promesses du Seigneur Jésus-Christ ont ce pouvoir de nous nourrir, de nous encourager, de nous fortifier, il n'est pas surprenant que le dernier discours du Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples avant sa mort soit rempli de promesses. Au début du chapitre, Jésus promet de préparer une demeure pour ses disciples, qu'il va revenir les chercher au temps voulu. Il a promis, et on l'a vu la dernière fois, de répondre à leurs prières, de les fortifier en envoyant l'Esprit Saint. Et dans les versets que nous voulons considérer ce matin, donc les versets 18 à 24, le Seigneur Jésus-Christ va rajouter quatre nouvelles promesses, des promesses merveilleuses qui, ensemble, abordent la question de son départ imminent. Ces promesses concernent ce que le Seigneur fera, quand il le fera, comment cela va se produire et pourquoi Cela est donné uniquement aux croyants et pas au monde. Mais au cœur de ces promesses, il y a cette merveilleuse promesse qui nous assure de la capacité du Seigneur Jésus-Christ à accomplir toutes les autres. Il dit au verset 19, « Car je vis, et vous vivrez aussi. » La première promesse, la promesse d'une solution. Alors que le Seigneur Jésus se prépare à quitter ses disciples, il leur donne une des images, peut-être les plus déchirantes, pour marquer leur esprit et pour enlever leur crainte. Verset 18, il leur dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Les orphelins sont les personnes sans doute les plus démunies au monde. Ils ne connaissent pas leur famille. Ils ne connaissent pas l'amour d'une famille, les soins que l'on peut avoir au sein d'une famille. C'est pour ça que les photographies d'orphelins attirent l'attention et suscitent très souvent beaucoup de sympathie. Le Seigneur Jésus était sur le point d'être cloué à la croix. Il allait être seul. Il allait être méprisé. Il allait souffrir l'agonie devant la haine du monde. Il était sur le point d'être abandonné. Mais sa préoccupation se focalise sur les disciples et comment eux allaient se sentir abandonnés quand leur maître allait être cloué sur la croix. Et à la suite de la crucifixion, leur déception est résumée par les paroles des disciples qui sont abattus que Jésus va rencontrer sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, verset 11, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Voilà l'abattement, voilà la déception dans laquelle ses disciples vont se trouver après la crucifixion. Et le Seigneur Jésus savait que ses disciples, même les plus proches, allaient se sentir abandonnés, allaient se sentir perdus après la crucifixion. Ils allaient se sentir seuls au monde, comme des orphelins sans défense. C'est un genre de désespoir qui est souvent ressenti par des personnes qui suivent un maître, par les disciples d'un enseignant, par exemple, ou ceux qui suivent un certain responsable. L'exemple dans l'Antiquité est celui de Platon, philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui dit, par exemple, que lorsque Socrate, un autre philosophe qui l'a précédé, autre philosophe grec, Platon dit au sujet, lorsque Socrate est décédé, il écrit au sujet de ses disciples, il dit, ses disciples pensaient qu'ils devaient passer le reste de leur vie dans le désespoir, comme des enfants privés d'un père, et ils ne savaient pas quoi faire de cette situation. C'est la raison pour laquelle, en cherchant à les affermir pour les heures sombres qui allaient venir, le Seigneur Jésus fait cette promesse au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il promet de venir vers ses disciples dans leurs besoins, de les ramener sous ses ailes, de prendre soin d'eux, afin qu'ils ne se sentent pas perdus comme des orphelins dans ce monde. Un peu plus tôt, le Seigneur avait promis de grandes choses à des disciples, qu'après être montés au ciel, il reviendrait pour les chercher, mais que pendant son départ, il répondrait à leurs prières, qu'il allait envoyer l'Esprit-Saint. Mais ici, c'est une promesse qui est plus tangible, plus directe. Une promesse qui va certainement répondre aux besoins immédiats de ceux qui comptaient sur lui. « Je viendrai à vous. Vous ne serez pas comme des orphelins dans ce monde. » Dans ce passage qui contient de grandes promesses. La première est fondamentale. Elle énonce clairement le contenu de la provision du Seigneur Jésus-Christ pour ses disciples. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Mais bien sûr, cela nous amène à d'autres questions, et la suivante étant « Mais quand ?» Le Seigneur Jésus promet qu'il va venir, mais quand est-ce que cela va arriver ? Quand est-ce que cette promesse qu'il fait ici va-t-elle être accomplie ? Et c'est la deuxième promesse. La promesse d'une solution. Je vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. La deuxième promesse, c'est la promesse de ses apparitions après la résurrection. Alors les experts ne sont pas d'accord sur la réponse à apporter à cette question « Quand ?» Quand est-ce que cette promesse « Je viendrai, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous » est accomplie ? Certains affirment que le Seigneur Jésus fait référence à son retour dans la gloire à la fin de l'histoire, en faisant remarquer que cette section commence avec une promesse de son retour à la fin des temps, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » D'autres experts disent que cette promesse annonce la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, étant donné que les versets précédents parlent clairement de la venue du Saint-Esprit. Versets 16 et 17. « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Bien entendu, ces deux événements sont des occasions où le Seigneur vient, d'une manière ou d'une autre, vers ses disciples. Mais la meilleure compréhension de cette promesse de « quand est-ce qu'il vient ?», c'est de comprendre que le Seigneur Jésus fait référence à ses apparitions devant les disciples après sa résurrection. Quelque chose qui allait se passer dans quelques jours seulement. Jésus, au verset 19, dit que cette venue est dans un peu de temps et qu'elle se passerait après que le soigneur soit enlevé de la vue du monde. Verset 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Et on sait qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur n'est apparu qu'aux disciples et le monde ne l'a pas vu. Cette déclaration a été accomplie dans la mort et la mise au tombeau du Seigneur Jésus-Christ, suivie de sa résurrection. Il est apparu ensuite aux disciples. Et cela a produit l'effet que le Seigneur Jésus déclare ici. Les disciples finiraient par comprendre qui il était par rapport au Père. Jésus s'est adressé aux disciples le jeudi soir, le sachant qu'il allait être enlevé d'eux et crucifié le vendredi. Mais il a regardé au loin, au premier dimanche de Pâques, et il leur dit, « Vous me verrez. Vous me verrez. » Et le mot grec ici est un mot « théoréo » qui signifie une perception qui voit. Une intuition, vous percevrez que c'est moi, vous comprendrez que c'est moi. Et cela a fait une grande différence pour les disciples quand le Seigneur Jésus est apparu au milieu d'eux, dans son corps ressuscité, qu'il a montré ses blessures, il les a invités à le toucher, il a même mangé un poisson avec eux pour prouver qu'il était réellement vivant. Il a même invité Thomas, qui doutait, à placer ses doigts dans le côté, dans les mains de son Seigneur, pour lui permettre de croire. Ce qui a incité Thomas à faire cette profession de foi modèle, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, verset 28. Et Pierre, l'apôtre, qui avait vu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair, qu'il avait renié lors de son procès, ce même Pierre a été encouragé, fortifié pour annoncer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ dans le premier sermon au jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Les apparitions du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection ont fait une grande différence dans la vie des disciples. C'est là qu'il est venu vers eux, afin qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas abandonnés, qu'ils n'étaient pas orphelins dans ce monde. Mais il y a plus à la venue annoncée du Seigneur Jésus que simplement ses apparitions auprès des disciples après la résurrection. Un autre résultat a été la résurrection spirituelle des disciples. Et cette interprétation est exigée par cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ au verset 19, « Car je vis, et vous vivrez aussi. » Après sa résurrection du tombeau par la puissance de l'Esprit-Saint, le Seigneur Jésus a donné la vie spirituelle qui a permis aux disciples de le voir avec les yeux de la foi et de comprendre. Et bien sûr, le principe de cette promesse peut être appliqué à toutes les facettes de notre salut. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité dans cette nouvelle vie de résurrection, il va aussi élever nos corps dans la gloire de la résurrection. Et parce qu'il est ressuscité, il accorde maintenant la vie à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui croient en lui. Car je vis et vous vivrez aussi. Un commentateur écrit, sa résurrection est la garantie qu'ils ne seront pas vaincus par la mort. Sa vie signifie la vie pour eux, la vie pour ses disciples. Et le résultat immédiat de la résurrection de Jésus-Christ était que les disciples allaient percevoir, comme le Seigneur le dit, que je suis en mon Père, verset 20. Et cela montre que la vie de résurrection du Seigneur Jésus-Christ donne la foi en lui. L'incapacité des disciples à comprendre le sens de la croix a mis en évidence leur besoin d'une résurrection spirituelle. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa vie de résurrection, que nous comprenons la vérité à son sujet et que nous pouvons répondre avec foi en lui faisant joyeusement confiance pour notre salut. Et ce don de cette vie spirituelle qui vient de Dieu, on l'appelle aussi la nouvelle naissance. C'est celle qui précède, c'est celle qui amène la foi. Le résultat de notre nouvelle vie est notre connaissance initiale du Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Mais ici, le Seigneur Jésus dit que ses disciples sauront, connaîtront qu'il est dans le Père. Et plus tard, le Seigneur Jésus dit que nous grandirons dans notre connaissance personnelle de lui comme il se manifeste. Mais au début, nous avons la perception de qui il a dit qu'il était. Il a dit qu'il est le Sauveur et c'est comme cela que nous le découvrons. Et c'est à cause de l'unité indestructible du Seigneur Jésus-Christ avec le Père comme Fils de Dieu que la mort ne pouvait pas le vaincre. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort dans sa nature humaine, sa nature divine qui est éternellement unie avec le Père, était incapable de mourir. Ce Dieu Sauveur est ce que nous savons lorsque nous venons à la foi, lorsque Jésus dit « Je suis en mon Père ». Et le Seigneur Jésus vient à nous aujourd'hui dans la proclamation de l'Évangile, dans le ministère de l'Esprit-Saint, quand il nous appelle à la foi et à une vie nouvelle, nous sommes, nous aussi, amenés au salut et à l'union avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous apprenons que le Seigneur Jésus est un avec le Père, nous nous rendons compte, comme le dit un commentateur, que cette union est à son tour le modèle de la relation entre le Seigneur Jésus et ses disciples. L'union du Père avec le Fils est à son tour le modèle de la relation entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Jésus dit au verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » C'est pour ça que les chrétiens vont connaître la vie éternelle, vont vivre éternellement, non pas parce que nous sommes devenus intrinsèquement immortels, que nous sommes indépendants du Seigneur Jésus-Christ, certainement pas parce que nous sommes devenus divins, non, mais parce que nous sommes unis à Christ. Et comme Paul le dit en Éphésiens 2, verset 5, « Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Et parce que Christ vit éternellement, nous vivrons éternellement avec lui, à cause de cette union avec lui. » Par notre union, par la foi avec lui, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la vie de résurrection afin que nous vivions avec lui et que nous régnerons un jour avec lui. Et cela commence au moment de la nouvelle naissance, au moment où lui nous donne cette vie nouvelle. Le Seigneur Jésus promet aux disciples qu'ils ne seront pas laissés orphelins, que sa communion renouvelée avec eux commence après sa résurrection. Ce sont des réponses, comme j'ai dit, aux questions de quoi et quand. Mais cela soulève une autre question. Comment les disciples, après la résurrection, vont-ils grandir dans leur connaissance de Jésus-Christ? Et c'est la troisième promesse. La promesse d'une connaissance plus grande de Jésus-Christ. La réponse à cette troisième question, c'est que, ayant commencé cette nouvelle vie en sachant que Jésus est ce qu'il a dit qu'il est, nous grandissons dans notre connaissance de lui personnellement, à travers une vie d'amour pour lui. Et cette vie se traduit aussi par une obéissance à ses commandements, à sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit au verset 21 et 23, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est la deuxième fois dans ce discours que le Seigneur Jésus-Christ souligne l'obéissance à sa parole, à ce qu'il a dit. La première fois, c'était au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est une preuve suffisante pour réfuter l'idée que les chrétiens, qui sont bien entendu sauvés par la foi, n'ont pas besoin d'obéir. Une adhésion froide, hypocrite à la Bible, n'est pas une véritable obéissance. Seul l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ est capable de nous faire garder et suivre sa parole. Et le Seigneur soutient celui qui l'aime vraiment, et que celui qui l'aime vraiment obéira à sa parole. Un commentateur écrit, « Il y a deux motivations pour garder les commandements. L'une, parce qu'ils sont commandés. L'autre, parce que nous aimons celui qui commande. L'une est un esclavage, l'autre est la liberté. L'une est comme les régions arctiques, froide et stérile, l'autre est comme les terres tropicales, pleine de chaleur et de soleil et glorieusement fertile. Une vie chrétienne réelle, vivante, implique toujours une obéissance libre et heureuse par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Le but du Seigneur Jésus n'est pas seulement de répéter son enseignement sur l'obéissance, mais plutôt de montrer que c'est par cette obéissance aimante que le croyant parvient à mieux le connaître. La première raison pour cela, c'est qu'une vie obéissante plaît à notre Père céleste. Jésus dit au verset 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous gagnons l'amour de Dieu en aimant le Seigneur Jésus-Christ. Tout le Nouveau Testament souligne que nous sommes sauvés parce que Dieu a tant aimé le monde. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean nous rappelle que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Mais il y a une distinction, surtout une distinction ancienne qui peut nous être utile. C'est une distinction entre l'amour de Dieu dans la compassion, par lequel il a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés, et l'amour de Dieu dans la complaisance, au sens ancien, qui signifie le plaisir, la joie que Dieu éprouve en voyant l'amour et l'obéissance de son peuple. C'est pour ça que l'obéissance à la parole de Dieu entraîne toujours une bénédiction spirituelle, non seulement parce que la parole de Dieu est juste et bonne, mais parce que Dieu bénit l'obéissance. Tout comme le Père était très satisfait de l'obéissance de son Fils, il est aussi heureux quand nous glorifions son Fils en lui obéissant dans l'amour. La deuxième raison pour laquelle l'obéissance donne une connaissance plus grande du Seigneur Jésus-Christ est expliquée dans cette autre promesse à la fin du verset 21. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et le verbe qui est traduit par « connaître » ici apparaît rarement dans la Bible. Il fait normalement référence à une manifestation éclatante de la gloire de Dieu. C'est le mot que Moïse a utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, quand il a plaidé avec Dieu pour voir la gloire de Dieu. Et avant de demander « Fais-moi voir ta gloire », Moïse a demandé « Fais-moi connaître tes voies, et alors je te connaîtrai. » Exode 33, verset 13. Dans les années qui ont suivi sa résurrection, alors que les disciples donnaient leur vie dans un service fidèle, en annonçant l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ est apparu à de nombreuses reprises pour leur donner des encouragements, pour leur donner d'autres révélations, pour leur donner la force de persévérer. Il ne les a pas laissés comme orphelins. Il leur est non seulement apparu après sa résurrection, mais il s'est manifesté à eux pour qu'ils grandissent dans leur connaissance dans les années à venir. Alors comment cette promesse s'applique-t-elle à nous aujourd'hui? Le Seigneur Jésus dit qu'il répondra à notre obéissance en se faisant toujours plus réel pour nous. Il ne se manifeste pas physiquement, étant donné qu'il est monté au ciel, et rien dans la Bible ne nous encourage à attendre des visions de lui. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ se rendra réel pour nous. Il manifestera sa gloire dans la parole et par le témoignage de l'Esprit-Saint à la parole, dans notre cœur, en appliquant cette parole dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui aiment et qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage, le Seigneur mentionne sa parole à 4 reprises, indiquant clairement que ceux qui le cherchent dans sa parole parfois traduit par commandement, mais ceux qui le cherchent dans sa parole, ceux qui le cherchent dans les Écritures, recevront une connaissance croissante de lui à travers sa parole. Et cet enseignement est important pour tous les chrétiens. Vous remarquerez que le Seigneur Jésus-Christ ne prescrit pas une vie d'isolement monastique qui nous permettrait de mieux le connaître. Jésus ne nous envoie pas au sommet d'une montagne, loin de la vie que nous connaissons, pour que nous puissions voir sa gloire. Non, au contraire, il nous appelle à une vie d'obéissance, dans l'amour, et dans laquelle nous le connaîtrons toujours plus, quand il révèle sa gloire. L'apôtre Paul exprime notre devoir dans ces termes quand il écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 2 et au verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous remarquez que nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous grandissons dans la connaissance en vivant dans la chair, c'est-à-dire dans notre vie terrestre normale, quand nous lui obéissons avec amour, là où nous sommes, que ce soit au travail, à la maison, dans nos familles, dans nos communautés. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pour un jeune croyant, cela souligne l'importance de commencer à suivre sincèrement le Seigneur Jésus-Christ en appliquant son enseignement dans la parole à la vie quotidienne. Nous ne devons pas seulement apprendre son enseignement. Nous devons aussi le mettre en pratique. Et nous devons prier, nous intéresser au salut des autres. Nous devons aimer les autres et poursuivre aussi notre croissance dans la grâce. Rechercher la sainteté. Et de cette façon, en obéissant au Seigneur Jésus par amour pour lui, il promet de se révéler de plus en plus alors que nous marchons avec lui dans la foi. Mais cet enseignement est aussi important pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. Un commentateur explique, il dit, beaucoup de chrétiens seraient prêts à faire des choses spectaculaires si par ce moyen, ils pouvaient mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas disposés à faire les choses courantes qui sont impliquées dans la simple obéissance. Allez-vous les faire ? Si vous les faites, vous grandirez certainement dans la grâce de Dieu. Si vous obéissez, le Seigneur Jésus-Christ vous dévoilera son cœur de plus en plus. Si nous constatons que notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ est émoussée, c'est probablement parce que nous avons tourné notre amour vers le monde, que nous avons cessé d'avoir soif de vérité biblique, que nous nous sommes contentés des premiers gains spirituels, des premiers jours en tant que chrétiens. Mais les croyants dont l'âme est desséchée ou asséchée devraient être motivés à renouveler leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ par cette promesse qu'il fait de répondre avec une plus grande connaissance de lui, une révélation de sa gloire. Je rappelle que cette chaîne de promesses a commencé par l'enseignement de Jésus sur ce qu'il fera, ne pas nous laisser orphelins. Et quand il le fera, aux disciples après la résurrection et à nous dans la nouvelle naissance. Et ensuite, comment nous apprécierons cette communion avec lui à travers sa révélation croissante quand nous l'aimons, quand nous obéissons à sa parole. Et cela nous amène à la quatrième promesse, la promesse de la communion avec Dieu. Le passage donc se termine par la réponse du Seigneur Jésus à la question de Judas. Comme le texte le précise, ce n'est pas Judas Iscariote, mais Judas le fils de Jacques, également connu sous le nom de Thaddée. Et la question est, pourquoi? Verset 22, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et cette question révèle la confusion de Judas au sujet de l'œuvre du salut du Seigneur Jésus-Christ. Il pensait qu'il serait préférable que le Seigneur révèle sa gloire au monde. Il se rappelait peut-être les manières dont Dieu avait impressionné le Pharaon et Israël avec des démonstrations visuelles lors de l'exode du pays d'Égypte. Le Seigneur répond par une promesse qui clarifie les intentions de Dieu dans le salut des hommes. Verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et nous trouvons que le dessein du Seigneur Jésus-Christ d'être avec nous implique l'accomplissement du dessein de Dieu, de faire sa demeure dans le cœur de ceux qui l'aiment et qui gardent sa parole. Le plan de Dieu n'a jamais envisagé de gagner un monde incrédule, un monde au cœur dur, avec des démonstrations visuelles impressionnantes. Il a plutôt prévu de racheter un peuple pour lui-même, qui, par sa grâce et par la puissance qu'il accomplirait en eux, allait l'aimer dans la sainteté, afin qu'il demeure en eux dans l'amour. L'apôtre Paul dit cela quand il déclare que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Tite 2, verset 14. Au sein d'un tel peuple, un tel peuple que Dieu a choisi, que Dieu a élu dans sa souveraineté, un peuple que Dieu a racheté par le sang expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, un peuple qui est sanctifié par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Père et le Fils ont tous les deux l'intention de venir faire notre demeure chez lui. Loin d'être abandonné ou orphelin dans ce monde, ceux qui reçoivent l'Évangile dans la foi, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui obéissent à sa parole, deviendront à la fois individuellement, mais aussi ensemble avec l'Église, un temple saint dans lequel Dieu habitera. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, 19 ou Éphésiens 2, versets 21 et 22. Et de cette façon, quand le Père et le Fils viennent faire le demeure, Dieu et son peuple commencent maintenant une communion d'amour qui anticipe la communion glorieuse que l'on connaîtra dans l'éternité. Apocalypse 21, verset 3. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et ça, c'est quelque chose qui commence dès maintenant sur terre. Le Fils et le Père viennent habiter dans le croyant. La bénédiction principale que Dieu peut donner, c'est lui-même. Le but de notre rédemption, c'est qu'il puisse être glorifié en nous, alors que nous jouissons de la communion avec lui, par l'Esprit Saint et par la parole. Que dire pour terminer? Au cœur de cette série de promesses, il y a cet engagement du Seigneur Jésus-Christ et cette promesse du Seigneur Jésus-Christ qui garantit qu'il est capable d'accomplir les autres promesses. Verset 19, « Car je vis et vous vivrez aussi. » Cela suggère qu'il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui vivent comme si le Seigneur Jésus-Christ était vivant, et ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ n'est qu'une figure emblématique de leur religion. Dans quel camp nous trouvons-nous? Les chrétiens qui se rendent compte que le Seigneur Jésus-Christ vit maintenant à la droite de Dieu, que nous pouvons mieux le connaître au travers de sa parole, au travers du ministère de l'Esprit-Saint qui applique cette parole à nos cœurs. Pour eux, ils feront de ce privilège la passion de leur vie. Oui, nous devons faire notre travail, nous devons élever nos enfants, nous devons nous engager dans toutes sortes d'activités mondaines, mais tout sera fait pour notre Seigneur Jésus-Christ, par amour pour lui, pour notre Sauveur qui est vivant, qui est avec nous, qui nous a aimés, qui nous a appelés à lui dans une relation d'amour. Et de tels chrétiens vont chercher à plaire au Seigneur plutôt qu'à chercher à plaire au monde. Ils voudront être proches du Seigneur plutôt que des plaisirs pécheurs. Ils vivront de sa force et non de leurs propres ressources. La Bible sera pour eux un livre vivant de communion dans lequel ils entendront la voix de leur Seigneur, sur les pages de laquelle sa gloire et sa grâce sont manifestées à leurs âmes. Mais les autres chrétiens, les chrétiens de nom, vivront comme si le Seigneur Jésus n'était pas vivant ou pas présent. Leur préoccupation est ce qu'ils peuvent obtenir de leur foi, plutôt que le don d'eux-mêmes par la foi. Leur plaisir se trouve dans les choses de ce monde, un monde dont ils ont du mal à refuser la volonté. Et s'ils lisent leur Bible, ils le font par devoir, en apprenant des faits, mais sans entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et ça continue dans les autres domaines, la prière, le culte, les autres devoirs chrétiens, tout est stérile. Et si cela décrit quelqu'un ce matin, regardons, écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. « Je vis, vous vivrez aussi. » C'est à lui que nous devons aller. C'est à lui que nous devons venir pour avoir la vie. Ce n'est que étant unis à lui par la foi que nous pouvons vivre. Ce n'est qu'en étant, en le connaissant comme notre Sauveur, que nous pouvons connaître non seulement la vie qu'il donne, mais aussi toutes les bénédictions qu'il donne avec cela. Il viendra un monde, il y a le danger, bien entendu, comme cela a été le cas pour les personnes qui ont critiqué le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas cru en lui pendant son ministère terrestre, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit au verset 19, « Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. » Après sa résurrection, le monde ne l'a plus vu. Il ne s'est révélé qu'aux disciples. Le danger, c'est que si l'on rejette le Seigneur Jésus-Christ, le danger, c'est qu'un jour, il sera trop tard. On ne pourra plus le voir. Mais aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il offre le salut encore aujourd'hui. C'est bien plus que ce que le monde peut offrir. Christ est toujours vivant et il vit pour toujours, que le monde le croit ou ne le croit pas. Mais si on le croit, si on donne son amour au Seigneur Jésus-Christ, nous aurons par sa vie la vie éternelle. Parce qu'il le dit lui-même, « Je vis et vous vivrez aussi. » Et ça commence dès la nouvelle naissance, dès aujourd'hui, dès que l'on croit dans le Seigneur Jésus-Christ, dès que l'on vient à lui dans la repentance et la foi, nous pouvons avoir cette assurance que nous vivrons. Non pas parce que nous avons la capacité en nous-mêmes, mais parce que Jésus-Christ vit. Je vis, car je vis, et vous vivrez aussi. Voilà de merveilleuses promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans ce passage et nous certifie qu'il a la capacité de répondre et d'accomplir ses promesses. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.